Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film digne de mention ou pas des annales du cinéma. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Keep the change, you
filthy animal. Bienvenue à Pittsburgh. Aujourd'hui, on parle de Rockstar, sorti en 2001 et réalisé par Steven Erick, avec Mark Wahlberg, Jennifer Aniston, Timothy Olyphant, Timothy Spall, Dominic West, Dagmara Dominicisk et Jason Fleming. Je suis Mathieu et, excusez l'anglicisme, mais Are you ready to rock? Alors, re-bienvenue au podcast. Cette semaine, on fait un film solo encore une fois. C'est vraiment aucun lien là, avec un don ou n'importe quoi. Là. C'est vraiment moi qui ai décidé là, de faire ce film-là. Ça fait, si maintenant vous suivez la page Facebook, vous voyez que ce film-là a comme été apparu quelques fois là, sur l'horaire hein, où que je mets les films là, dans la page de couverture. Fait que ça fait quelques fois que je voulais le mettre, mais j'ai dû le repousser là, pour quelconque raison. Puis finalement, ben, t'sais, j'arrive finalement à le couvrir. C'est un film que ça fait longtemps que j'ai vu. Là, mais en tout cas, je vais en parler tantôt là, de mon point de vue. Mais que je voulais recouvrir éventuellement. Là, c'est un film là, que, dans le fond, là, que j'ai aimé à l'époque. Là, puis en tout cas, je trouvais ça, je me suis dit que ça serait le fun de le couvrir. Question de changer un petit peu encore une fois, là, de faire un petit peu des choses différentes au podcast là, cette année. Là, les dons m'ont aidé beaucoup à faire des choses différentes, mais aussi, je n'ai apporté du mien, bien sûr, là, avec plusieurs films là, cette année. Faire des franchises, c'est souvent ce que je vais continuer à faire aussi, mais faire des films solo aussi, là, de peut-être plus l'incorporer là, de plus en plus là, au podcast en tant que tel. Là. Mais même, je regarde l'horaire de l'année prochaine, puis je sais pas comment que je vais réussir à rentrer là, des films solo, mais il y a encore des trous. Puis en tout cas, si vous voyez l'horaire sur le site là, de Facebook, puis que je vais essayer d'incorporer là, dans le fond là, dans tous les autres réseaux sociaux là, j'essaie de juste un peu comprendre comment que Twitter pas Twitter mais comment Instagram fonctionne encore là, je suis pas encore très à l'aise avec ce réseau social là, mais ouais, je vais essayer de mettre ça là, pour ceux-là qui suivent sur Instagram. Alors, c'est ça. Le film d'aujourd'hui, c'est un film là, qui a commencé dans un comme une idée, comme une biographie là, d'un chanteur, Tim Ripper Owens. Ben, tu sais, Tim Owens, que lui, dans le fond, il jouait là, dans un groupe hommage. Pas juste hommage, là, il avait quand même sorti un album là, avec son groupe de l'époque, tout ça. C'est sûr que pour le film aujourd'hui, là, on a un peu changé les choses, là, mais... le gars, dans le fond, c'est ça, c'était un grand fan là, du groupe de metal que j'ai déjà parlé une couple de fois, le fait que quelques références là, au courant là, de ma carrière de podcasteur au groupe Judas Priest, puis que c'est ça, dans le fond, dans les années 90, là, je pense que c'est 80, en 91 et 93, je pense, on avait eu un album, le Painkiller, de Judas Priest, et finalement, ben, c'était le dernier album là, avec le chanteur initial, Rob Halford, que lui a quitté, là, en tout cas, je ne me rappelle pas exactement pour quelle raison, et que dans le fond, on avait besoin d'un remplaçant. Dans le fond, on a décidé de quand même continuer là, le groupe. Là, c'est pas à cause que le chanteur partait qu'on allait abolir le groupe. Dans le fond, dans cette époque-là aussi, on avait Iron Maiden aussi, qu'il avait changé de chanteur aussi. Fait que ça fait un peu aussi, tous les groupes voulaient quand même continuer. Là. Judas Priest, c'est un band qui avait été assez populaire là, dans les années 80, là, avec notamment là, des chansons comme Breaking the Law, You've Got Another Thing Coming. Hein, du coup, ça faisait là, partie là, du New Brave of New... World of New Wave of British Heavy Metal, en tout cas dans les débuts des années 80, avec Iron Maiden, vous en faites la même. Fait que ça avait comme été un peu dépassé, on s'entend, là, avec l'arrivée là, de Metallica puis tout ça, puis le thrash là, avec Slayer puis tout ça. Là, mais c'est ça, je veux dire, ce groupe-là n'avait plus de chanteur à l'époque. Fait que dans le fond, ils ont tombé sur une bobine ou quelque chose en même là, de tape. Où est-ce que on avait le chanteur Tim Owens qui chantait du Judas Priest et que dans le fond sur cette audition là ben ils l'ont apporté là, pour l'auditionner et finalement ben il a été le chanteur là, du groupe Judas Priest pour leurs deux prochains albums là. Ben, en tout cas, au moment du film il était encore chanteur pour le groupe de Judas Priest. On avait approché le band Judas Priest pour faire le film d'aujourd'hui. Ça n'a pas vraiment cliqué avec le groupe. Le groupe était quand même supporteur. Dans le fond, il était prêt à apporter des idées. Mais initialement, quand ils sont arrivés avec le script, ils ont dit, bon, ben, il y a des petites affaires qu'on n'aime pas. Ils se sont mis à réécrire le script, puis de commencer tout de suite à faire un groupe fictif pour justement un peu dissocier les choses. Puis en même temps, ben, tu sais, le côté script, ben, ça l'aide beaucoup à faire là, compléter peut-être l'histoire dans le fond, puis peut-être pas nécessairement là, être figé dans le temps, même si on suppose que le film là, est en 1985-86, ben, tu sais, ça fait qu'un peu l'histoire est pas reliée juste à un groupe spécifique, puis qu'on peut prendre beaucoup de liberté. Fait que peut-être un bon choix ou pas. En tout cas, on en reparlera un peu plus tard. Mais c'est ça. Essentiellement, ben, c'est ça. C'est basé sur cette histoire-là. Puis moi, ben, tu sais, comme je l'ai dit, ben, j'ai déjà parlé une couple de fois là, de Judas Priest. Puis étant fan là, de heavy metal, surtout dans ces années-là. Mettons, dans les années 80, là, j'ai vraiment pas. C'était pas mon genre. Tu sais, dans le fond, c'était toute mon enfance là, dans les années 80. Fait que c'était plus. Quelque chose qui me faisait en guillemets peur là, plutôt là, c'est ce genre pas du monde là, qui sont pas qui ont un mauvais style de vie puis des affaires de même là, fait que en tout cas c'est pas quelque chose là, que j'étais attiré, mais plus dans mon adolescence ça a été le côté rebelle de tout ça, fait que c'est ça à quelque part là, c'est pas mal ça un peu la genèse du film. Je remarque aussi l'écrivain du film, c'est l'acteur John Stockwell, que lui, je pense, c'est sa première écriture comme film. L'acteur John Stockwell, j'en ai parlé quand j'ai parlé là, du film Top Gun. Dans le fond, c'est un acteur, je pense qu'il est au début du film, puis c'est lui que, dans le fond, là, il a comme un malaise au début de Top Gun. Fait que c'est lui qui écrit le film. Cet acteur-là, éventuellement aussi, il a joué là, dans le film là, de Christine, de 1983, que éventuellement ben, je vais reparler. En tout cas, j'ai juste trouvé qu'en faisant ma recherche pour le film, ça je ne savais pas. Il y avait beaucoup d'affaires dans le film que je sais aujourd'hui, mais c'est sûr qu'en lisant un peu plus approfondi là, sur le film, ben, j'ai découvert encore des choses que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, le synopsis du film, selon IMDb, va comme suit. Le chanteur principal d'un groupe hommage devient le chanteur principal d'un vrai groupe qu'il idolâtre. Dans le fond, le film, là, c'est un film de devenir majeur encore une fois, là, chose que j'ai. Ben, tu sais, que je couvre une fois de temps en temps, là, c'est vraiment le personnage, même s'il est rendu à un âge adulte, ben, ça n'a pas rapport nécessairement avec l'idée. Là. C'est plus une question là, que le personnage est toujours un petit peu dans une telle manière là, avant de partir, puis que finalement, ben, il va mûrir tout au long du film. Puis dans le fond, ben, c'est ça, on va parler de ça pas mal pendant tout le film. C'est sûr que c'est entouré beaucoup là, de sex, drugs and rock and roll. C'est pas mal la thématique, là, dans le fond, là, de toute l'idée, là, puis de toute son aventure là-dedans. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. On veut montrer là, comment que le rêve que tout être a, enfant, ben, tu sais, quelque part, là, comment que ça évolue. Puis que finalement, ben, tu sais, c'est peut-être pas qu'est-ce qu'on veut vraiment là, rendu là. Quand on a tout, ben, tu sais, des fois, ça arrive que c'est pas nécessairement là, qu'est-ce qu'on a voulu au départ ou que, qu'est-ce que vraiment qu'on peut penser. Ben c'est peut-être pas ça que justement on a besoin. Alors, le film d'aujourd'hui, je l'ai vu initialement là, au cinéma. Je me le suis procuré en DVD par la suite. J'ai fait quelque chose. Je l'ai vendu éventuellement. Parce qu'éventuellement, je voulais comme me débarrasser là, de mes DVD et vouloir me racheter là, des versions Blu-ray. Et c'est ce que j'ai fait avec ce film-là, dans le fond, là, pour comme un peu augmenter là, la qualité là, du visionnage. Ce qui est quand même assez curieux, par contre, c'est que quand j'ai écouté là, ma version Blu-ray, que dans le fond, ça fait à peu près 15 ans que j'ai fait ça. Dans le fond, j'ai vendu ma copie DVD et racheté ma copie Blu-ray. Et c'est la première fois que je revisite là, depuis pas loin de 20 ans, dans le fond, là, après avoir écouté le film. Il n'y avait pas la trame en français, dans le fond. Là, fait que tout ce que vous allez entendre là, pour la version audio du podcast, ben, les extraits sont pris en anglais parce que j'ai pu accès là, à la version là, française. Là. En tout cas, j'ai juste trouvé ça très curieux. Là, peut-être que mon DVD, mon Blu-ray est peut-être importé là, des États-Unis. Là, je ne m'en rappelle pas exactement parce que j'ai pris là, ma version Blu-ray. Et pourtant, il était là bien là, sur la version DVD. Mais c'est ça, fait que c'est un retour là, après, là, comme je viens de dire, là, peut-être là, 15-20 ans, là, après avoir écouté le film là, depuis tout ce temps-là. J'avais des bonnes mémoires du film, mais c'est ça, tu sais, avec tout le regard du temps, ben, j'ai vieilli beaucoup depuis ce temps-là. Dans le fond, je commençais avec ma conjointe à l'époque, et finalement, ben, tu sais, on se ramasse là, quelque chose comme 22 ans plus tard. Tu sais, dans le fond, on a comme changé depuis ce temps-là, puis retourné, dans le fond, avec toutes les idées. Puis tu sais avec l'œil du podcast que la manière que je regarde les films maintenant ben juste pouvoir voir si mettons c'est un film là, qui tient la route pendant le podcast tu sais ça c'est dans la version visuelle vidéo dans le fond là sur YouTube ou sur Spotify là que vous pouvez le voir là. Ça se peut que des fois je vous montre là, des pochettes d'albums là. J'en ai une couple à côté de moi pour faire des références. C'est sûr je vais vous le dire en même temps là. Fait que faites-vous-en pas pareil pour ceux qui écoutent audio là. Mais c'est juste des petites références là. Je me suis gardé quelques albums à côté de moi pour pouvoir faire là, les références là, que je parle, là, mais j'ai pas tous les albums, puis je retrouvais pas tout exactement ce que je voulais parler. Là. J'ai une grosse tonne de piles de CD dans mon sol, et quelque chose comme 800 CD. Là. Fait que, tu sais, à quelque part, là, puis c'est tout gardé là, dans un fond, là, dans un armoire, tout ça, puis j'ai pas tout trouvé exactement ce que je voulais trouver. Là. Fait que je vais faire quelques références, là, mais c'est pas. Faites-vous-en pas, là, si maintenant vous écoutez juste le podcast en audio, en version audio. Juste, je fais juste une parenthèse de même. Si maintenant vous écoutez le podcast sur Spotify, j'ai deux feeds spécifiques sur différents, dans le fond. Parce que je le mets sur deux moteurs, dans le fond, là, chaque podcast. Puis, dans le fond, ils partent sur deux feeds sur Spotify, puis probablement d'autres aussi. Là, c'est plus Spotify que je suis. Puis, c'est ça, dans le fond. Mais il y en a un des deux feeds. Vous pouvez peut-être vérifier là, en suivant sur Spotify que c'est des choses que je vais peut-être répéter là, au courant des prochaines semaines. Parce que, dans le fond, dans le feed, il y en a un des feeds qu'il y a juste la version audio. Et dans l'autre feed, il y a les deux versions séparées, dans le fond. Là, j'essaie là, de quand je sors les versions vidéo. Le vidéo se trouve sur YouTube aussi, mais vous pouvez aussi là, voir la version le podcast sur Spotify en version vidéo. Là. En tout cas, je fais une petite parenthèse que je ferme en ce moment. Fait que on se ramasse là, dans les années 80, on dit pas exactement où, quand est-ce dans les années 80, plus tard on va sortir des dates officielles dans le fond, là. Fait que tu sais, on est en 1985, le début année 84, fin 84, début 85 peut-être, où ce que dans le fond, tu sais, on commence avec une interview là, avec le personnage là, de Chris Cole, qui est interprété là, par Mark Wahlberg. Marky Mark, bien sûr, dans le fond, il y a le chanteur, lui, il avait déjà été chanteur, là, Marky Mark, pour Marky Mark, and, je ne me rappelle pas trop quoi exactement, là, il avait fait la chanson là, Good Vibrations là, dans, en 1991-92, quelque chose de même. Puis finalement, ben, c'est recyclé là, comme acteur. Je pense que je l'avais vu à l'époque dans le film Fear, Obsession Mortelle, là, en 96, le film Boogie Nights, où c'est un, dans le fond là, un acteur porno là-dedans, là, en 97, là, dans ces eaux-là, avec Julianne Moore, qu'elle, on va parler de elle là, dans quelques semaines, avec le film de Hannibal. C'est ça, dans le fond, il avait joué aussi là, un film Trois Rois avec George Clooney, que dans le fond, ça a un rapport un peu avec la raison pourquoi il est dans le film aujourd'hui. Puis, dans le fond, il venait d'arriver, de faire là, le remake là, du film de La Planète des Singes, qu'on devrait parler l'année prochaine. Mais Mark Wahlberg, c'est ça, dans le fond, c'est toujours pas un acteur que je raffole, dans le fond, c'est pas un acteur qui me dérange tant que tel, mais c'est pas un acteur qui il a la présence d'écran, je pense, à quelque part, il est mieux quand au moins il est accompagné, c'est pas quelqu'un que j'ai jamais, que je trouve qu'il est capable de tenir un film tout seul, que, comme quand j'ai parlé là, des films de Transformers, dans le fond, là, au tout début du podcast, là, il y a pas loin de 5 ans. Je maintiens un peu là, mes idées avec lui aujourd'hui. C'est sûr que là, il est accompagné là, de Jennifer Aniston et toute la bande là, de musicale alentour de lui. Ce qui l'aide justement là, pas à cacher sa performance. Parce que c'est pas un mauvais acteur, mais à quelque part, c'est parce qu'il est bien entouré quand il joue dans des films. Je pense que c'est plus ça. Puis je parlais de George Clooney, dans le fond, c'est juste à cause du film qu'il a joué dedans. Ben, le film dans la production, quand il est en train de rechercher là, des producteurs, puis dans le fond, une équipe là, pour soutenir le film, c'est la compagnie là, de George Clooney qui a pris en charge là, le film. Et qu'effectivement, initialement, on devait avoir Brad Pitt dans le rôle principal, puis dans le fond, c'est ça, quand c'est tombé sous la direction là, de la compagnie à M. Clooney, c'est là qu'on a ramassé Mark Wahlberg à cause du film, là, à cause que dans le fond, ça va bien travailler avec, je pense pas que c'est nécessairement juste à cause de ça, il faut s'entendre. Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, ça commence avec une interview avec lui. Puis, dans le fond, on va boucler ça là, pas mal à la fin là, avec cette interview-là. En terminant le film, lui, il fait le personnage là, de Chris Cole. Puis, dans le fond, on a comme un flashback là, dans les années 80 où ce qu'il est en train là, de. Ils sont dans le sous-sol là, d'un théâtre, d'un cinéma porno, puis dans le fond, ils sont en train là, de pratiquer leurs chansons. Là. On voit, là, on rencontre là, le groupe le Blood Pollution, qui est un hommage au groupe Steel Dragon. C'est drôle, pareil, parce que je dirais que les acteurs qui sont dans le film aujourd'hui, là, ça va arriver là, à deux occasions. Où ce que je vais voir des acteurs, puis je vais dire, c'est tel acteur. Puis là, ça arrive avec Timothy Olyphant, que j'ai couvert au podcast au moins deux fois, peut-être plus, là, mais dans le fond, là, qui fait le méchant principal là, dans Die Hard 4 et dans Scream 2, je pense, où ce que c'était un des tueurs. Puis, tu sais, dans le fond, depuis ce temps-là, je recroise cet acteur-là. Et me semble que j'en ai parlé là, en début d'année aussi là, pour je me rappelle pas quoi exactement là, quel film, mais en tout cas je l'ai recouvert. Puis lui, dans le fond, c'est comme un ami d'enfance avec le personnage là, de Chris. Et que dans le fond, ils ont créé ce groupe hommage-là. Le groupe et le restant du groupe, le bassiste, c'est le Brian quelque chose, là, qui est le bassiste là, du groupe The Verve Pipe, qui, dans le fond, vont contribuer une chanson à la toute fin là, du film. Puis, dans le fond, tant qu'à contribuer une chanson, il a réussi à trouver là, un geek, dans le fond, là, pour... jouer dans le film là. Puis c'est ça, il va faire le bassiste là, dans dans le groupe Blood Pollution, on a aussi le drummer là, qui est drummer pour le groupe Slaughter. Et l'autre guitariste, dans le fond, le guitariste principal, ben c'est, tu sais, ces personnes-là ne parlent pas pendant le film, ils sont juste là comme figurants, mais c'est quand même assez ironique quand tu connais la chose que le guitariste, c'est Nick Catanese, qui est, dans le fond, le deuxième guitariste là, dans le groupe Black Label Society à l'époque, que... Dans le fond, là, si vous me voyez en version vidéo, ben, tu sais, je porte présentement un gilet de Black Label Society, juste pour le fun, qui est dans le fond le deuxième guitariste au groupe, ben, le principal guitariste là, du groupe Black Label Society, c'est le groupe Azaak Wild, qui est dans le fond le même personnage, ben, tu sais, le guitariste qui doit remplacer, dans le fond, dans le groupe Hommage, dans le fond, là, c'est dans le fond, c'est un duo là, dans la vraie vie, là, surtout à l'époque. Je ne sais pas si M. Catney joue encore là, dans Black Label Society, mais moi, à l'époque, bien sûr, ben, j'ai ressorti là, pour la version vidéo, là, vous le voyez, là, en tout cas, vous ne me voyez pas au complet, là, mais j'étais un grand fan là, de ce groupe-là à l'époque, puis c'est ça, puis je les avais vus live pas trop longtemps avant. Pendant la tournée là, de cet album-ci. Puis c'est ça, dans le fond. Fait que j'étais un gros fan là, de Black Label Society à l'époque. Puis c'est ça, en tout cas, je vais parler de ça un peu plus tard, dans le fond, là, pour introduire là, aussi les autres membres de l'autre band. Fait que c'est dans le fond, c'est pas mal un peu notre introduction, là, où ce qu'on voit, là, qui sont en train de pratiquer leurs chansons. Puis on voit que le personnage là, de Chris, lui, dans le fond, il prend ça très au sérieux. Lui, il veut être plus qu'un groupe hommage, dans le fond. Là, il veut être vraiment fidèle. Dans le fond, là, tout ce qui est Steel Dragon, le groupe qui lit de l'art, ben, tu sais, c'est tout est sacré, chaque note est sacrée. Puis c'est ça, dans le fond, le guitariste là, qui est joué là, par Timothy Olyphant, là, il doit faire un coup de guitare là, qui appelle un pitch harmonic, puis qui est un son signé, clé là, du guitariste là, de Azaak Wild que je parlais justement, que lui avait joué là, dans le groupe là, de Ozzy Osbourne là, dans les fins d'année 80, puis jusqu'à présent, là, je pense qu'il joue encore dedans, là, même si Ozzy est pas mal à la retraite forcée en ce moment. Mais c'est ça, dans le fond, t'sais, c'est ça. On arrivait là, pour juste son son, ben, qui devait faire exactement le même son, puis tout ça. Puis t'sais, dans le fond, ça, il va y avoir un peu des répercussions à cette scène-là un peu plus tard. Puis c'est ça, c'est juste pour montrer comment il est obsédé là, par le son là, de Steel Dragon. Fait qu'on saute dans le fond le générique avec la musique là, de Trevor Rabin. Qui va faire une bonne trame sonore. Je pense pas l'avoir vraiment entendu là, faire une autre trame sonore. Là, peut-être, là, j'ai pas vraiment remarqué. Là, mais c'est comme sur la trame sonore du film de Rockstar, où ce que ils vont faire comme un pot pourri là, de pas mal toutes les clips là, qu'il va faire. C'est une genre de track là, qui dure à peu près 4 minutes. Puis c'est tous les morceaux qu'on entend, là, à part la tune thème de Batman qui va jouer un peu plus tard. Là, tout est comme incorporé là, dans cette track là, de 4 minutes. Puis c'est un bon travail en tant que tel. Là, j'aime quand même la petite pièce, là, la manière qui est montée. Tant qu'à parler là, de la trame sonore, dans le fond, là, qui est pas à 100% tout ce qu'ils vont jouer là, dans le film. Là, dans le fond, on va avoir des chansons là, de Everclear, on va avoir des chansons là, de Steel Dragon, de Motley Crue, de Bon Jovi, de Ted Nugent, Kiss, INXS, voyons, et The Verve 5, bien sûr. Trame sonore très, très, très solide, qui a marché beaucoup là, dans ma voiture à l'époque. C'est sûr qu'il manque beaucoup de chansons. Il y a manque du AC/DC, il manque plein d'affaires là, dans la trame sonore, mais c'est une trame sonore qui est très solide. Bien sûr, l'attrait de cette trame sonore-là, c'est le groupe de Steel Dragon, dans le fond. Ou ce qu'ils font là, 5 ou 6 tunes dans le fond, puis que dans le fond, il y en a deux qui se retrouvent pas là, sur cette trame sonore-là. Mais vous pouvez quand même vérifier sur Spotify. Là, il y a une bonne partie là, de cette trame sonore-là qui se retrouve dessus. Sous le nom Lubricator comme album, qui est un clin d'œil, dans le fond, au début là, du film. Là, c'est ça, dans le fond, après avoir sauté le générique, bien, on voit un album là, de Steel Dragon, l'album Lubricator, qui incorpore les chansons, dans le fond, là, qui sont sur l'album, qui ont une toune de plus. Mettons, vous regardez là, sur le fameux Spotify, il y a une toune de plus, là, Crown of Falsehood, qui n'est pas sur le CD, mais dans le fond, il manque la chanson We All Die Young, que Chris là, va interpréter un peu plus tard. Mais c'est ça. Fait que, je vais parler un petit peu plus technique, peut-être un peu plus tard. Là. En tout cas, j'essaie de mettre ça quand même un peu bref, là, parce que si vous ne connaissez pas vraiment le domaine de la musique, puis si vous ne connaissez pas les interprètes, là, ça vous intéresse peut-être pas tant que ça. Là. Fait que je vais y aller quand même un peu approfondi, mais sans trop m'attarder dessus. Là. C'est ça, tu sais, on voit que quand même Chris, il a une vie tu sais, assez standard en tant que tel, mais tu sais, ça va bien, toute la famille sportive là, tu sais, tout c'est assez joyeux, puis tu sais, tout va bien en tant que tel là, c'est dans le fond, c'est on pourrait dire là, c'est un poil comme on appelle un peu à l'époque là, dans le fond, qui écoute du gros heavy metal des années 80, mais qu'en bout de ligne, ben, tu sais, tout est bien beau là, dans sa vie. Il fait une vie là, très paisible. C'est pas quelqu'un qui a une vie de débauché en tant que tel. C'est plus un adolescent qui, dans le fond, là, qui trippe là, sur un groupe. Fait que, dans le fond, il se dirige là, vers un concert du groupe Steel Dragon. C'est ça, dans le fond, moi, je vais y aller avec aussi tout de suite introduire, dans le fond, le groupe là, de Steel Dragon, qui est le chanteur principal qui est à l'écran qu'on voit, là, qui est Jason Fleming, mais bien sûr, c'est pas lui qui chante. Pareil pour Chris Cole, dans le fond, là, Mark Wahlberg, c'est pas lui qui va chanter, là, dans le fond, c'est Mike Mitejevic qui va faire la voix là, de Mark Wahlberg, qui est dans le fond le chanteur de Steelheart, qui eux dans le fond avaient fait la chanson là, We All Die Young là, qui va arriver plus tard là, en tout cas le gars rechante sa chanson là, c'est ça en bout de ligne, mais c'est ça pour Mark Wahlberg. Le chanteur version c'est Steel Dragon là, dans le fond le groupe Steel Dragon, le chanteur c'est Jeff Scott Soto, qui était le chanteur pour Yngwie Malmsteen à l'époque, puis qui a fait bien d'autres affaires aussi là, par la suite. Là, dans le fond, il a réenregistré là, la chanson « Living the Life » qu'on entend là, dans tout le générique aussi, là, chanson très solide. Là. C'est ça, dans le fond, Zach Wild, que j'ai parlé un peu plus tôt, que j'étais un très, très, très grand fan de tous les premiers albums de Black Label Society. J'ai perdu un petit peu, là, j'ai vieilli à quelque part là, depuis quelques années. Là. Je veux dire, je pense les 6-7 premiers albums de Black Label Society, je les ai écoutés. Là. Ça sortait à chaque année, dans le fond, un album par année, puis on roulait à chaque année, puis renouvelé là, l'année suivante. Lui, c'est ça, c'est le guitariste principal. On a aussi le bassiste, qui est le bassiste là, du groupe Dokken. Déjà parlé de Dokken en couvrant le film Nightmare on Elm Street, qui font la chanson principale. Le nom ne me revient pas juste pour parler de même, là, mais ensuite aussi, là, on a le drummer du groupe, là, dans le fond, c'est le fils là, du regretté, le drummer là, de Led Zeppelin, dans le fond, c'est son garçon que lui, dans le fond, il a continué à drummer là, pour Led Zeppelin. À l'époque, là, puis je pense que jusqu'au moment présent, là, en tout cas, je sais pas exactement où est-ce que Led Zeppelin sont, là, mais c'est ça, fait que c'est ce qui fait le groupe de Steel Dragon. Puis bien sûr, ben, on a ajouté un acteur, dans le fond, l'acteur Dominic West, que j'ai revu une couple de fois, que, ironiquement, ben, on va reparler de lui dans quelques semaines, là, quand on va parler là, de Hannibal Rising, le dernier film là, de Hannibal, à peu près dans 4 semaines, dans le fond. Fait que c'est ça qui est le groupe de Steel Dragon. Fait que le chanteur, ben c'est ça, tu sais, dans le on a aussi l'introduction là, de le manager là, de route, le Mats, que lui, tu sais, on voit là, des groupies un peu plus tôt, puis que dans le fond, il y a des passes VIP, tout ça, qu'eux autres, là, tu sais, puis c'était un peu pour apporter l'idée là, de qu'est-ce qui se passe là, dans des groupes, des concerts, puis comment que les toute cette gestion-là, à quelque part, là, ben, tu sais, dans le fond, là, il y a beaucoup de femmes puis qui sont embarquées, impliquées là-dedans, puis en bout de ligne, c'est juste comme, je sais pas, pour rester poli, là, mais c'est assez dégueulasse à quelque part, parce que ça ont comme consommé à quelque part, puis tu sais, c'est ça à quelque part, c'est juste la nature là, de cette industrie. En tout cas, c'est, on a un peu le côté, là, si t'es une femme, ben, tu as plus de privilèges à quelque part pour, bien sûr, le plaisir charnel. Là. Fait que le concert termine, puis ben, c'est ça, tu sais, il y a le moment où ce qu'on peut voir quand même là, que Chris Cole est, ben, tu sais, il y a un talent là, sur Bobby Beers, le chanteur là, de voyons, de Steel Dragon. Mais ça va revenir en parallèle à la fin, là, je vais plus en parler à la fin. Puis c'est ça, dans le fond, là, fait qu'ils sortent du concert, puis dans le fond, ils vont croiser un autre groupe hommage qui s'appelle Black Babylon, que dans le fond, c'est supposément une autre chanson de Steel Dragon que, tu sais, on va savoir là, ben, le lendemain matin là, que c'est une chanson qu'il n'y avait pas joué depuis plusieurs années. Là, mais c'est ça, tu sais. On voit la dynamique là, à la famille le lendemain, tout ça. Là. En tout cas, oui, c'est pas juste pour terminer là, avec Black Babylon, mais dans le fond, ça finit en chicane, ce qui va être ironique là, avec un petit peu la scène un peu plus loin. Mais c'est sûr, dans le fond, ils prennent toute leur carrière au sérieux. Fait que le lendemain matin, ben, c'est ça, c'est un peu le lendemain de brosse, un peu là, du party. Ça sert pas grand-chose pareil, la chicane dans le stationnement, honnêtement. Là, c'est juste pour montrer qu'ils se prennent peut-être au sérieux, tout ça. Puis qu'ils sont des gros fans. Mais je veux dire, tu sais, c'est des groupes hommages, c'est des groupes hommages. Là, dans mon livre à moi, là, à quelque part, là, c'est à quelque part, c'est oui, c'est. Ils font de l'argent de tout ça, mais à quelque part, en tout cas. Fait que c'est juste ça vire en chicane. On voit, c'est ça, la vie normale là, de Chris Cole. Là, on est introduit à son frère, puis dans le fond, on nous apporte ça un petit peu en. Comme en blague un peu, est-ce que c'est la police qui vient le chercher le lendemain matin? Finalement, c'est son frère, que lui, c'est un policier. Puis c'est là où est-ce qu'on embarque quand même la thématique qu'en bout de ligne, ben, il reste. Ben, tu sais, on ne sait pas exactement c'est quoi la job, c'est quoi l'âge à Chris Cole, mais il y a quand même un travail stable. Dans le fond, il est technicien de photocopieur. Puis que, quelque part, ben. Il habite encore chez ses parents, tu sais, dans le fond, pour comme un peu le côté là, de son frère, ben, il a pas vieilli, il est comme, tu sais, à quelque part, là, il évolue à rien, il est de l'art un groupe, mais tu sais, il a pas sa voix à lui, dans le fond, là, tu sais, il vit la vie de quelqu'un d'autre. C'est là où on commence à vraiment nous embarquer ça, là, comme idée là, à cette partie-là. Que il s'en va nulle part là, dans le fond là. Mais en tout cas c'est là qu'on peut commencer à comprendre peut-être où ce qu'on s'en va avec le film, même si c'est apporté un peu dans un côté je vais pas dire rigolo un peu, mais tu sais c'est pas le ton est pas assez clair que je pense que tu sais ça aurait pu être plus clair peut-être là, c'était pas obligé de devenir super sérieux là, mais t'sais, à quelque part, c'est juste limite correct la manière que c'est apporté. Le ton du film, c'est ça un peu, je vais juste aborder tranquillement un petit peu, que c'est peut-être un peu trop léger pour des thèmes qu'on va essayer d'apporter pendant le film. Puis c'est ça, c'est apporté, je pense que c'est lourd, parce que ça commence à me dire un peu, ouais, ben, tu vas apporter un peu des thèmes un peu sérieux. Mais tu sais, c'est apporté tellement dans un côté comédique que ça a passé là, 40 pieds par-dessus ma tête. Le réalisateur du film, dans le fond, lui, il a réalisé, je pense, son premier film, c'est Critters. Je pense que c'est le film original qu'il a réalisé. Mais par la suite, il a réalisé beaucoup de comédies, là, Mighty Ducks, 101 Dalmatiens. C'est quelqu'un là, qui a quand même eu là, un bon succès là, à l'époque, mais c'est ça, je veux dire, ça faisait une couple de navets là, qu'il venait de faire. Je pense que c'est un film avec Eddie Murphy, là, The Holy Man, là, qui était une bombe quelques années avant, mais en tout cas, ça n'empêche pas là, de réaliser le film d'aujourd'hui. Mais c'est pas un connaisseur, en écoutant le commentaire audio, c'est pas un connaisseur de l'environnement qui va parler aujourd'hui. Il va se référer beaucoup à Zach Wilde puis à Jason Bonham, le garçon là, du drummer de Led Zeppelin. Il va se baser beaucoup sur eux autres, puis qu'est-ce qui se passe là, dans le fond, dans les coulisses là, ou quand un membre d'un groupe se fait mettre à la porte, ou des affaires de même là. On a le bassiste là, de Dawkins aussi, qui est là sur place. Fait que, t'sais, il se base beaucoup là, sur ces personnes-là pour créer l'univers, puis c'est ça qui peut-être qui va manquer au film, d'avoir quelqu'un qui comprend l'univers qu'il fait, puis pas qui se fait dire « Ah, ben tu sais, ça va comme ça, puis ok, c'est beau, je vais faire une scène qui ressemble à qu'est-ce que tu me dis. » Il fallait peut-être avoir quelqu'un qui comprenne l'univers là, de qu'est-ce qu'on va apporter, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais parler peut-être plus là, vers ma critique finale là, au fin du podcast. Mais c'est ça, en tout cas, fait que c'est le côté sur le réalisateur, puis le ton du film, que dans le fond, là, c'est pas une mauvaise affaire là, d'avoir un peu là, de légèreté, là, c'est quelque chose qu'on veut apporter, peut-être pas trop fort, là, je veux dire, on veut pas être trop sombre, puis c'est bien correct. Là. Alors, environ 18 minutes du film, là, on se ramasse là, au concert là, du groupe hommage Blood Pollution, qu'eux autres nommaient leur nom là, à cause d'une chanson là, de Steel Dragon, je ne l'ai pas dit tantôt. Eux autres, ben, c'est ça, dans le fond, c'est là où l'histoire là, commence à embrayer, dans le fond, là, où ce que, dans le fond, ils vont chanter là, la chanson Stand Up. Et que là, Rob, ben lui, il va comme un peu dans le moment, puis il va commencer à jouer un petit peu n'importe quoi là, pendant le concert. Puis, tu sais, voyant que la foule a réagi, puis tout ça, fait que, tu sais, dans le fond, lui, il va jouer un petit peu, puis tout ça. Sauf que ça va fâcher Chris. Puis lui, il va dire, ben tu sais, viens pas scraper le concert, commencer à faire n'importe quoi, tu sais. Je veux dire, on est supposé de jouer la chanson Stand Up, puis, tu sais, dans le fond, c'est un petit peu... T'sais, on avait entendu la chanson Stand Up par le Steel Dragon un peu plus tôt. Puis là, c'est un peu leur manière où ce qu'ils vont la faire. Puis t'sais, on voit que Chris, il va reprendre un peu qu'est-ce que le personnage là, de Bobby Beers avait dit pendant le concert. Ben, t'sais, il l'adapte un peu, mais t'sais, juste pour, dans le fond, faire une réplique. Mais c'est ça, dans le fond, la bagarre à pogne, tu sais, je veux dire, il va prendre son micro, puis il va briser carrément là, l'amplificateur là, de Timothy Olyphant, dans le fond, là, que lui, le personnage là, de Rob, tu sais, à quelque part, tu peux te chicaner à quelque part, là, mais tu sais, péter un amplificateur, là, c'est une centaine de piastres, là, à quelque part, là, puis des centaines de piastres, 1980, tu sais. Pas des 100 piastres aujourd'hui, ou est-ce que ça serait 20 piastres aujourd'hui? Là. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, il va péter, je comprends, là, quelque part, là, c'est la chicane à pogne. Tu sais, c'est ironique que Chris arrive et il dit « Viens pas scraper le concert », mais en bout de ligne, c'est lui qui va carrément scraper le concert. T'sais, tu veux continuer de performer, mais plus de guitariste, à quelque part, tu sais, c'est à quelque part, là, c'est un petit peu n'importe quoi. Saute d'humeur à quelque part, c'est peut-être des clins d'œil à des groupes que je dis, c'est les chicanes punk sur le stage. J'étais un grand fan là, du groupe Oasis et les frères Gallagher là-dedans, ben c'est leur renommée était que les chicanes sur le stage. Peut-être que c'est un hommage à ça, je sais pas, mais c'est ça, fait que par la suite de ça, ben on va opter là, de remplacer Chris comme chanteur. Ironiquement, on va le remplacer par le groupe hommage qu'on a vu un peu plus tôt. Dans le fond, le chanteur va être remplacé. C'est, je ne sais pas, le groupe, pour une raison quelconque, là, Black Babylon n'existe plus. Je ne sais pas. Il a décidé là, de changer là, de chanteur de groupe. Là, je ne sais pas exactement. Ça fait pas de sens un petit peu là, dans le lien interne. Là, peut-être qu'au lendemain là, de la bagarre. Après le concert, ben peut-être que les autres groupes ont dit ben finalement, tu sais, moi me faire péter la gueule pour un groupe hommage, là, ça me tente pas tout à fait. Fait qu'ils ont tout lâché, puis c'est ça. Dans le fond, le chanteur se met à chanter pour Blood Pollution. Puis tu sais, ils vont même demander à la blonde de Chris, là, est-ce que tu veux toujours quand même être notre manager? Puis elle va répondre, ben tu sais, le seul talent qu'il y avait dans le groupe vient de quitter. C'est un petit peu chien pareil, à quelque part, tu sais, c'est bon, à quelque part, elle veut suivre son conjoint, à quelque part, puis c'est correct, là, mais tu sais, c'est je pense qu'elle peut comprendre aussi. L'optique, là, mais c'est à quelque part, elle veut pas. T'sais, elle est prête à suivre son conjoint. Puis, je veux dire, est-ce que lui avait le talent ou pas? Puis, je veux dire, techniquement, c'est eux autres qui vont se mettre à faire la toune de la fin, puis qui est très talentueuse aussi. Là, j'aime bien la toune là, à la fin. Là, déjà, je suis un petit peu en avance là-dessus. Là, mais, tu sais, j'ai juste trouvé ça chien un petit peu de sa part, à quelque part, à rappeler plus. En tout cas, peut-être que c'est le moment là, où, ce que comme manager, elle n'a pas été. On lui a pas dit avant ou quelque chose de même. Là. Mais c'est ça. T'sais, dans le fond, le personnage de Emily, là, joué là, par Jennifer Aniston, que à l'époque, elle jouait encore là, dans la série Friends. Que dans le fond là, qui est un visage bien reconnu quelque part là. C'est, je sais pas si c'est pas plus reconnu que Mark Wahlberg à l'époque. Série Friends que j'ai jamais écouté. Puis Jennifer Aniston que j'ai pas vu dans grand chose, honnêtement, c'est pas l'actrice que je veux dire qui tombe là, dans les films que j'écoute. Je l'ai peut-être vu là, dans Leprechaun, le premier, là, il y a quelques années, où j'ai finalement décidé là, que je me faisais torturer à écouter là, toute la série au complet. Et finalement, ben, c'est ça, quelque part, là, c'est, à part de Leprechaun, je ne pense pas là, l'avoir vu là, dans autre chose, à part le film d'aujourd'hui. Puis c'est un bon choix, quelque part. Je dirais que dans le commentaire audio, par contre, avec le réalisateur, je dirais que des fois, il devrait peut-être pas trop parler, à quelque part. Tu sais, on voit que il y a peut-être des pensées un petit peu. Tu sais, le genre de pensée que tu gardes dans ta tête et tu le verbalises pas envers Mme Aniston. Un peu plus tôt, on l'avait vu avec une scène là, où Chris il doit se faire percer là, les mamelons. Puis, tu sais, dans le fond, il explique qu'il ne savait pas exactement comment la faire habiller parce qu'il ne connaissait pas. Tout ça, c'est correct à quelque part. Mais, tu sais, c'est comme le malaise que tu dis des affaires de même. C'est assez étrange à quelque part. Tu sais, je veux dire, tu peux faire des choix. Pour la caméra, tu sais, je veux dire, c'est il y a une différence entre le faire professionnel puis le faire à cause que tu connais la personne. C'est quasiment plus étrange de le faire parce que tu la connais mieux, la personne, que si, mettons, tu le fais professionnel, puis c'est tout, là. C'est juste ça, là. Fait que, puis c'est aussi, là, un peu plus tard, là, parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes tout nu là, dans la salle d'hôtel, la chambre d'hôtel, que dans le fond, là, c'est le commentaire là, que tu sais, je veux dire, tu gardes ça dans ta tête. Là. En tout cas, il y a des affaires qui sont assez spéciales là, dans le commentaire audio qui vaut peut-être la peine d'écouter pour certains moments là, cringy qu'on pourrait dire. Mais c'est ça, à quelque part, fait qu'elle va partir, ils vont avoir une petite discussion là, dans la voiture, où ce qu'elle va dire, ben, peut-être que c'est le temps d'évoluer, si c'était un signe, ou si quelque chose de même, là, mais cette discussion-là va un peu nulle part, mais pour quand même démontrer que les compositions, les affaires de même, c'est pas quelque chose là, qui est envisagé là, par le personnage de Chris, que lui, dans le fond, là, c'est Steel Dragon, c'est juste Steel Dragon. Puis, tu sais, dans le fond, même à quelque part, elle arrive où elle dit, ben, tu m'avais chanté une chanson, tout ce que tu avais composé. Puis il dit, non, non, c'est une chanson là, qui venait de quelqu'un d'autre. Mais évidemment, ça ne doit pas être de Steel Dragon parce qu'elle l'a entendu par la, éventuellement, là, sachant comment qu'il est, qui est obsédé là, par le groupe. Fait que il va être remplacé de Blood Pollution, mais c'est ça, dans le fond, là, il ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais heureusement, ben, c'est-tu le lendemain matin, peut-être, il va être appelé directement là, par le guitariste Kirk de Steel Dragon, où ce que lui va avoir entendu la vidéo là, de qui ont chanté, là, je pense que c'est Stand Up, en tout cas, telle chanson, et que finalement, ben, il va être intéressé à vouloir l'auditionner là, pour le être le chanteur remplaçant pour Bobby Beers. Fait que, dans le fond, là, ils vont prendre l'avion. On va avoir un des managers de Steel Dragon, le personnage là, de Tanya, là, qui est joué là, par Doug Dagmara Dominzik. En tout cas, j'ai la misère à le dire un peu. Ça a l'air que c'était un petit peu compliqué à voir quelqu'un qui auditionnait, puis que, dans le fond, ben, c'est pour une révélation un peu plus tard que, quelque part, ben, qui est peut-être pas une totalement une femme, là. C'était un petit peu compliqué là, comme pour trouver une actrice là, pour faire le rôle. Mais c'est ça, à quelque part, c'est juste pour mettre un peu des mal à l'aise, un peu quand il arrive, dans le fond, à l'audition. Un peu de comprendre que le monde, puis quand je parle de des malaises là-dedans, c'est plus pour tu sais, voir qu'ils sont pas dans leur même univers. Il y a des choses qui changent, où ce que dans le fond, El Tanya, elle va commencer à garder Jennifer Aniston, puis tu sais, il commence à y parler là, comme c'est quasiment rendu un objet, tu sais, je veux dire, elle va y parler là, de sa poitrine, puis des affaires de même, tu sais, juste pour un peu, tu sais, genre, juste comme laisser aller, là, comme dans la normalité, quasiment, là, oui, ça a l'air un petit peu, là, à l'air d'être intéressé, mettons, là, mais c'est juste de sortir des sujets de même, là, juste en discussion de quelqu'un que tu viens de connaître, là. C'est vraiment juste pour les malaises, puis pour voir qu'ils sont dans un autre monde. Puis dans un autre monde, en même temps, ben c'est ça, il arrive, dans le fond, l'endroit pour auditionner, puis dans le fond, il y a comme un musée de Steel Dragon, puis plusieurs clins d'œil à plusieurs groupes, puis tu sais, il y a vraiment un hommage direct là, à Judas Priest, avec une genre de veste là, en cuir, puis avec des studs dessus, là. Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est tout un peu des clins d'œil, puis tu sais, avec des guitares, pis des affaires de même là, en tout cas, c'est tout pour un peu montrer là, qu'ils sont rendus dans un monde surréel, puis le monde là, de la musique. Fait que, dans le fond, là, on va rencontrer le groupe, puis dans le fond, il va auditionner, puis comme j'ai parlé tantôt, il va chanter la chanson là, We All Die Young, qui est du groupe Steel Heart, puis c'est là qu'on va entendre là, comme le chanteur original qui va reprendre sa chanson, là, mais il va devenir le chanteur là, qui va chanter ben, techniquement là, pour Mark Wahlberg. Dans toutes les prises, là, quelque part, aucun vont chanter les chansons. Des fois, c'est Mark Wahlberg qui commence, puis des fois, là, c'est Mike Mitalievic qui va succéder, là, dans le fond, là, pour chanter là, à sa place comme chanteur, tout ça. C'est ça, tout au long du film. Là. C'est sûr qu'il y a des fois où on pense que c'est Steel Dragon qui joue, mais c'est Def Leppard ou des fois c'est Kiss. Ils font comme des montages qu'on pense que c'est eux autres là, qui chantent, là, mais c'est juste pour simplifier les choses. Fait que c'est ça. Dans le fond, ce qu'on peut comprendre, mais ils l'ont mentionné un peu rapidement, un peu plus tôt dans le film. Je pense que c'est quand que Chris se fait mettre à la porte que Bobby Beers allait quitter le groupe. Puis on a une scène, dans le fond, qui est en parallèle avec la scène que Chris s'est fait mettre dehors où ce que Bobby Beers va décider de garder telle affaire avant de quitter, puis ils m'ont dit, ben c'est beau, garde la porte est ouverte pour toi, là. Puis, tu sais, on avait Chris, que lui, voulait garder son micro, puis tout ça, tu sais, c'est comme une scène où c'est complètement vide, quelque part, la manière qu'on peut regarder ça, tu sais, je veux dire, c'est comme triste pour la personne, mais en bout de ligne, le monde s'en fout alentour. Mais c'est ça, quelque part, on a une scène de même. Une révélation que la chanson Stand Up qui était fait, il disait en concert que était pour une femme, ben, tu sais, dans le fond, c'était pour un homme qui avait brisé son cœur, qui est pris directement de Judas Priest avec le chanteur Rob Halford, qu'il y a une chanson qui s'appelle Victim of Changes, qui était écrite pour un homme et non une femme, la Whiskey Woman, dans cette chanson-là. Si vous savez de qu'est-ce que je parle. Fait que, dans le fond, aussi avec le parallèle de Judas Priest, ben, on va renommer, il s'appellera plus Chris Cole, dans le fond, il va s'appeler Izzy, comme la chanson Izzy's Revenge. Comme que dans la vraie vie, ben, c'est ça, quand Tim Owens a fait partie du groupe, ben, il est devenu Tim the Ripper Owens, qui est la chanson The Ripper. Qui, je pense, vient de l'album justement, le Victim of Changes, que je viens de parler il y a quelques secondes, l'album Sad Wings of Destiny, je me rappelle bien, qui est carrément, c'est un bon petit album, dans le fond, fin d'année 70. C'est ça, fait que, dans le fond, on va engager Mark Wahlberg, Chris Cole, comme chanteur. Puis là, ben, ça devient un peu surréel. Il y a un concert tout de suite après. Puis, dans le fond, il va continuer la tournée, peut-être, qu'il était entamé avant. En tout cas, c'est moi comme ça que je vois ça. Il n'y a pas vraiment de dates qui sont démontrées. Fait que, tu sais, peut-être que tout se passe en dedans de 2 semaines. Puis que, dans le fond, on ne coupe pas la tournée. Et que, finalement, ben, il va juste continuer la tournée qui était dedans. En tout cas, c'est la manière que je vois ça. Puis finalement, ben, c'est ça. Ça va être le montage du show, tout ça. T'sais, on va utiliser beaucoup de monde qui ont travaillé avec Dawkins, avec Zach Wild et Ozzy. Aussi avec Led Zeppelin. Puis dans le fond, on va utiliser ce monde-là. Ils vont comme monter un aréna, un show. Dans le fond, ils vont utiliser les roadies sur la route. Là-dedans, ben c'est ça, tu sais, pour arriver au show, ils ont réussi à faire un genre de concert bénéfique. Dans le fond, ça coûtait quelque chose comme 5$ pour rentrer. Puis, on avait deux groupes qui n'est pas mentionné. Je regarde Wikipédia, c'est marqué Metallica et Megadeth. Honnêtement, ça me surprendrait en 2001 que ces deux groupes-là ont joué avant. C'était peut-être juste des groupes hommages, quelque part. Il y avait Steel Dragon, bien sûr, qui font leur performance. Les tunes qui n'étaient pas connues, dans le fond. Les autres, il y avait un peu aussi du monde alentour, dans la foule, qui sont des fans avec des panneaux, tout ça, qui connaissaient les tunes, bien sûr. Sauf qu'il y avait quand même une foule de 10 000 personnes qui n'avaient jamais entendu ces tunes-là, mais qui devaient quand même comprendre un peu qu'est-ce qu'ils devaient faire. Fait que on avait opté de faire quand même une levée de fonds, puis que dans le fond, pour que le monde qui soit là, ils vont donner un tel montant. Fait qu'au moins, ils se sentent un peu impliqués, puis que. Ils sont pas là juste pour être là, puis après ça, ils vont quitter, puisqu'ils ont déjà payé pour. 5$, c'est pas beaucoup, mais ça le monde reste là pareil parce qu'ils ont payé pour. Fait que c'est une belle manière, dans le fond, puis en donnant 5$, puis ça vaut pour une telle charité, c'est pas une mauvaise affaire non plus. Mais ça donne, dans le fond, le visuel qu'on a, dans le fond, au premier concert, parce que, dans le fond, on a pas mal tout filmé. Je pense qu'il y avait 7 caméras à filmer. Tout au long, puis juste que ça, tout faire le montage, tout ça, fait que c'était quand même assez cool pour voir ça. Dans le fond, c'est tout, tout, probablement tout ce qui est fait live est tout le même concert, quelque part, mais c'est ça. Dans le fond, tout ce qu'ils ont pu monter, il y a quelqu'un qui a un panneau, Bobby Beers, Bring Him Back, quelque chose de même, puis que Chris va sortir une hose, puis dans le fond, les arroser, tout ça. Je sais pas si ça se fait, ça, quelque part. C'est comme tu es en train renier ton passé quelque part de même, tout ça. En tout cas, il y a beaucoup de groupes qui ont fait ça aussi, comme parler sur des anciens des anciens membres d'un groupe. Mais je pense pas que c'est une bonne idée, ça. En tout cas, par principe que... Là, tu parles bien de ton groupe aujourd'hui, mais dans le fond, quand il y en a un qui sera pas là, ben, dans le fond, là, tu vas le poignarder dans le dos, tout ça. Fait, quand tu, je pense que c'est quelque chose que je trouve ridicule, mais ça c'est peut-être la mentalité qui a changé là, depuis l'époque, là, peut-être. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, là, la chanson Blood Pollution, que je vais encore répéter un peu, là, dans le fond, là, que je trouve qui est une tune très très solide, là, puis je comprends pourquoi que le groupe de Chris au début s'était appelé Blood Pollution. C'est probablement ma chanson préférée d'eux autres, là, Blood Pollution. Mais c'est ça, fait que tu sais, dans le fond, il va descendre les escaliers, puis il va trébucher, tout ça, il va être plein de sang, puis tu sais, dans le fond, là, c'est juste pour tu sais, c'est pas un accident, là, quelque part, là, tu sais, je veux dire, c'était planifié, là, mais c'est juste pour moi, tu sais, qu'on peut-être pour un certain instant, on se dit, est-ce que ça va mal aller ou pas, tu sais, va-tu se casser la gueule tout de suite en partant, puis ça finit là comme carrière. Il y a comme un petit moment là, mais tu sais, juste pour montrer que finalement là, ben, il s'adapte sur le champ, puis il est prêt à continuer. Fait que ils vont chanter la chanson là, We All Die Young, puis c'est un peu peut-être aussi dans l'idée là, de que je parlais tantôt, ben, tu sais, dans le fond, ils vont reprendre une chanson puis comme l'adapter. Pareil comme que Bobby Beers parlait là, de Stand Up and Shout, là, que dans le fond, là, qui était à propos là, de Kim qui avait brisé le cœur, ben là, ben, lui, il va commencer à parler là, de We All Die Young, qui parle là, de rêves, puis dans le fond, de suivre ses rêves, qui est comme une thématique là, du film. Mais c'est ça, fait que le concert fini, puis dans le fond, là, tout a bien été, puis là, ben, c'est comme l'après-show, où est-ce qu'on va tomber là, dans mettons qu'on a le sex, drugs and rock and roll, ben, tu sais, on va faire ça à l'inverse, on a eu le rock and roll, puis après ça, ben, tu sais, on va tomber là, dans les drugs, où est-ce qu'on, tu sais, tout le monde va commencer à consommer là, plusieurs affaires, là, de l'alcool, des affaires de même, puis ça va finir par le sexe. De vraiment là, pas mal tout le monde, un peu partout, n'importe quoi dans le fond, puis c'est ça, c'est comme on apporte ces sujets là puis c'est comme un peu comme envoyé sous le tapis par la suite, ça reste un peu un train de fond. Je sais pas si on devait nous le marteler, montrer que c'était vraiment quelque chose de différent. T'sais, on va voir après ça les femmes de tous les membres du groupe qui vont embarquer là, dans la voiture, qui va suivre l'autobus avec les membres du groupe, puis qu'eux autres vont avoir des femmes à bord, puis tout ça, puis, tu sais, quelque part, il y a probablement des choses qui se passent là, pendant le temps, mais tu sais, les femmes suivent dans une autre voiture. Il y avait une scène supprimée aussi, là, à quelque part, où ce que pendant le tu sais, aussi, ils vont à une discothèque là, après, là, puis dans le fond, là, toutes les femmes là, des membres, ben, ils sont à la salle de bain, ils sont en train là, de se remplir le nez là, de cocaïne, puis tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, là, pour montrer le fond, on a décidé là, de ne pas garder ça dans le film pour une question là, de cadence du film, tout ça. Je pense que ça aurait été bon de le marteler, surtout peut-être pour le côté là, de Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, tu sais, elle est là toujours un petit peu en arrière-plan, en arrière de Mark Wahlberg. C'est sûr que c'est Mark Wahlberg, c'est son film. Mais à quelque part, elle s'éclipse de plus en plus, plus le film avance, puis éventuellement elle disparaît du film. Mais je pense que, tu sais, peut-être qu'on aurait dû, parce que là, ils se réveillent, puis là, c'est comme, ben, c'est ridicule un petit peu, ils se sont réveillés, là, puis tu sais, il y a plein de monde tout nu à l'entour, puis il y a eu un gros fun la nuit précédente, ils ne savent même pas qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, puis là, ils embarquent dans le bus, puis ça continue, puis je pense que, tu sais, bon, peut-être pas pour cette fois-là, je comprends qu'on peut le montrer, mais le ton reste léger pour le restant du film, puis tu sais, je pense que là, à partir de là, ben, on voit qu'il y a des choses qui sont comme pas normales, mais c'est comme un peu trop glissé sous le tapis, là, je pense, là. C'est là un petit peu où ce que je trouve que le ton du film joue contre le film à partir là, de pas mal ce moment-là. Il y a des affaires que bon, c'est correct, toutes les rockstars ont vécu ça pas mal, là, en tout cas, toutes, là, je veux dire, j'imagine là, qu'il y en a qui l'ont pas vécu, mais c'est ça, tu sais, la plupart, mettons, là, 80%. Là. Mais c'est ça, quelque part. Ben, ils vont dans l'autobus pour la prochaine venue, puis le prochain concert, tout ça. Puis éventuellement, ben, le personnage là, de Jennifer Aniston, là, Emily, elle a dit, là, ben, dit regarde, je suis pas capable de suivre ça. Là, amuse-toi, tout ça. Là, elle est très transparente avec ça. Quelque part, elle sait qu'il y a probablement des choses qui vont se produire, puis ça va faire de même. Là, mais tu sais, elle est pas. Possessive là, sur Chris quelque part. Fait que tu sais, ça est correct avec ça. Elle dit quand tu reviendras à Pittsburgh, ben t'sais, on s'en rencontrera là, puis quelque part là, ben on continuera à partir de là. Fait que là, c'est ça, on voit le temps passer comme dans le fond, là, comment que la popularité là, a continué, les interviews, tout ça. On voit Mark Wahlberg là, sur un couvert là, d'un magazine qui s'appelle Metal God. Le film devait s'appeler Metal God, d'après la chanson là, de Judas Priest. Puis finalement, ben, on a changé là, le nom là, à Rockstar par rapport à. Pour avoir un auditoire un peu plus large, là, comme j'ai parlé un peu plus tôt, pas trop que ça soit ciblé juste à Judas Priest. Mais c'est sûr, on voit un peu les irréalités là, de qui vont vivre là, pendant tout le chemin. Là, continuer la tournée, là, on part de 85 à 86 là, pendant tout ce temps-là. Où ce que, dans le fond, ils vont réussir à avoir une Batmobile. Puis ça va devenir la voiture à Chris Cole. On a dans le fond là, les choses irréelles qu'ils font, ils vont briser là, les chambres d'hôtel, ils vont comme tout coller là, ou clouer ou visser tous les meubles là, dans une chambre d'hôtel au plafond, ils vont tirer les téléviseurs par la fenêtre, toutes des affaires qu'on a déjà entendu parler dans le fond. C'est ça, tu sais, on a Zach Wilde, dans le fond, là, que lui, il sort sa carabine tout le temps. T'sais, on l'entend tout le temps parler de chasse, puis, tu sais, il y a des panneaux où il va sortir sa carabine par la fenêtre là, de l'autobus. Puis, tu sais, c'est juste tout le temps du ridicule, un peu. Et c'est ça, rendu là. Fait que ça commence à Pittsburgh, où ce que Emily, jouée par Jennifer Aniston, elle vient rejoindre Chris. Mais tu sais, ce qui se passe, c'est que quand même pendant les tournées, puis c'est plate un peu quand tu penses trop à ça, puis tu sais, même tous les artistes qu'on voit, ou ce que tu sais, dans le fond, ils commencent à nommer les places, tout ça, qui sont, tu sais, mettons, Bienvenue au Québec, tu sais, ou des fois ils nous appellent juste Canada, ou tu sais, des fois, là, tu sais, c'est juste pour eux autres, ils font juste se promener, puis ben, ils changent de place en place, mais. C'est la même affaire qu'ils font là, des fois là, c'est des soixantaines de fois ou même si c'est 20 fois de suite. C'est comme c'est une foule, mais c'est juste c'est comme techniquement, c'est comme dans leurs yeux, c'est la même affaire tout le temps. Même si oui, les visages sont différents. Les arénas sont différentes, mais leur scène est pareille. Ou en bout de ligne, ils font la même affaire, ils font souvent les mêmes chansons, puis des affaires de même. Mais ça reste que c'est tout le temps la même affaire en embarquant avec les foules, tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, ils deviennent comme un peu tout mêlés dans tout ça. Tu sais, que ça soit peu importe la ville, que ça soit Seattle, que ça soit Québec, que ça soit Vancouver, que ça soit New York, rendu là. Tu sais, des fois, oui, l'endroit va être plus peuplé. Ça va être des plus gros concerts. Ou ce que, dans le fond, ça va se démarquer. Mais. Ça reste que ils font la même affaire. Puis, tu sais, ça soit ça dans n'importe quoi que tu fasses là, à ton travail, ben, tu sais, rendu là, c'est quoi qui va démarquer une semaine d'une autre semaine? C'est beaucoup ça rendu là. Fait que, tu sais, dans le fond, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont retournés à Pittsburgh. C'est toujours le party. Puis, tu sais, dans le fond, Chris, dans le fond, il ne se rend vraiment pas compte là. Il a commencé à embarquer là, dans les drogues, dans toute la vie de rockstar, dans le fond. C'est ça, dans le fond, il ne se rend pas compte là, que Emily, elle vient le voir. Tu sais, dans le fond, on joue un petit peu avec l'idée là, où ce qu'elle monte dans l'ascenseur, puis que dans le fond, elle est là avec son genre 8 dans l'ascenseur, puis que là, ils veulent tout le rencontrer. Puis, tu sais, dans le fond, ben elle, c'est sa blonde. Puis que, tu sais, dans le fond, ils ont toutes comme des espérances là, de pouvoir le rencontrer. Puis, c'est ça en bout de ligne. Fait que, ils vont se quitter officiellement. Dans le fond, c'était pas officiel dans le, un peu plus tôt dans le film, mais là, c'est vraiment c'est officiel. Ils se quittent. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il a l'air d'avoir un goût amer, mais on va avoir comme un bond dans le temps parce que là, il va avoir des vacances du groupe. Puis là, ben, tu sais, ils vont retomber à peut-être enregistrer là, le prochain album. Fait que, tu sais, il doit avoir quand même un bon temps, un bon laps. On doit même plus être en 87 ou 87. On était rendu à 85. On doit être en 86, 87, rendu là. Tu sais, disant qu'ils vont enregistrer un album. C'est sûr qu'ils peuvent enregistrer un album pendant qu'ils sont en tournée. Ils peuvent faire des chansons. Tu sais, c'est des choses qui ont été un peu courantes. Généralement, les groupes arrêtent quand même là, pour enregistrer. Là. C'est rare, c'est tout le temps là, dans. Quoique c'est le même studio qu'on a vu un peu au début. Fait que c'est c'est moi qui vais un petit peu trop loin. Mais tu sais, ils ont parlé de vacances. Fait que tu sais, on doit être rendu quelque chose comme en 87, là, peut-être deux ans là, après que l'histoire là, a commencé. Fait que. Ils vont enregistrer, là, commencer les enregistrements pour le nouvel album. Puis on sait que dans le fond, le guitariste et le drummer, eux autres ont enregistré les chansons. Le guitariste et le bassiste, a enregistré les chansons. Puis que dans le fond, ils vont pas laisser de place à Chris Cole de pouvoir faire sa marque. Ce qui est comme un peu un parallèle avec la vie quand même, là, ce que dans le fond, là, Tim Owens, là, il n'a pas eu de droit d'écrire pour les chansons là, de Judas Priest là, sur les deux albums qu'il avait fait à l'époque, le Jugulator et Demolition. Je n'ai pas les pochettes avec moi, j'ai les ai, mais je voulais juste comme les montrer. Ces deux albums là, qui sont très excellents là, à mes oreilles. Mais c'est ça, à quelque part, ben c'est ça, on va arriver dans le film. Puis, tu sais, il va voir apporter ses idées, puis tout ça. Puis, c'est quand même un peu l'ironie des choses qu'au début du film, tu sais, il sait. S'il est fan du film, il sait que c'est jamais le restant du groupe qui écrit pour le groupe. C'est toujours les deux mêmes personnes qui écrivent. Peut-être aussi un genre de clin d'œil, je sais pas si c'est un clin d'œil, on dit, là, peut-être qu'on visait un peu, mettons Metallica, où est-ce que c'était le guitariste et le drummer qui écrivent toutes les tunes. Des fois, à l'époque, je pense qu'on avait rajouté le bassiste une fois de temps en temps qui pouvait rajouter son, genre une tune par album, qui était le nouveau venu. Oui, l'autre guitariste aussi, des fois, mettait sa marque sur quelques chansons, mais c'était principalement tout le temps le chanteur et le drummer. Mais du coup, moi, c'est comme ça je vois ça, là, mais c'était peut-être là, juste chose courante aussi. En embarquant, là, dans le fond, là, dans la mentalité du guitariste là, qui jouait là, par Dominic West, là, le personnage de Kirk, que lui, il dit... si, mettons, on commence à déplaire à un fan devient deux fans, d'après ça, tu sais, ça se multiplie, ça vient 4, 8, 16, en tout cas, etc. Mais, à quelque part, c'est ça, tu sais, c'est l'évolution, puis il y a eu beaucoup un changement de mentalité dans tout ça, avec les temps, où ce que, dans le fond, je pense que c'est ça qu'on pensait à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus ouvert, mais c'est ça, tu sais, ça fait partie là, d'une mentalité du temps. Mais à quelque part, les deux sont bonnes. Tu sais, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise idée. Pour les personnages, c'est sûr que quand on fait une histoire, tout ça, on arrive avec l'idée, c'est stupide que dans le fond, il laisse pas sa marque. Sauf que le point à Kirk est très valable parce que, je veux dire, mettons, on revient au temps où ce que je vais même utiliser Judas Priest comme exemple. Comment d'autres personnes n'ont pas écouté là, les deux albums qui ont sorti avec Ripper Owens, Jugulator et Demolition? Demolition est moins bien vu, là, en tout cas. Mais Jugulator est un album très, très excellent. Je veux dire, il sonne bizarre comme album, mais c'est vraiment là, c'est très agressif. Puis C'est comme un album qui est comme relié, là. On peut même pas la retrouver, là. Ben, les deux albums qui ont été faits là, avec Ripper, là, puis même deux albums live, là, ils sont pas sur Spotify, il n'y a rien. Là, c'est comme on a tout renié là, de ça, cette époque-là. Mais pourtant, ben c'est ça, tu sais, je connaissais aussi là, des amateurs de Judas Priest dans le temps. J'avais des collègues de travail que lui m'avait apporté là, beaucoup de cassettes à l'époque que je pouvais écouter parce que il y a un temps où je travaillais là, tout seul dans un entrepôt, puis je me mettais de la musique, puis je veux dire, il m'avait apporté beaucoup d'albums là, de Judas Priest à l'époque. Et qu'il voulait rien savoir de Judas Priest là, si c'était pas le chanteur original qui chantait. Puis c'est ça, dans le fond. Fait que ça démontre que comment qu'une image peut changer. Puis tu sais, des fois, là, c'est les guitaristes, les affaires de même qui changent les membres. Mais tu sais, c'est pas autant apparent que la voix. Tu sais, ça, il faut s'entendre là-dessus. Mais c'est ça, à quelque part. Puis fait que c'est pour ça que je dis que c'est très valable. Sauf que le côté, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, si tu changes la voix, tu peux peut-être donner un peu une chance à la personne de faire sa marque. Pour au moins qu'il ait quelque chose pour un peu l'encourager, mais c'est très valable dans la mentalité de cet univers-là qui est très féroce, que je veux dire, justement, tu peux être fan d'un jour, puis après ça, tu n'écoutes plus du tout. Ben, tu sais, je parlais de Black Label Society tantôt, ou ce que je veux dire, tous les premiers albums, tu sais, ce que je vous montre en ce moment, c'est la première édition de cet album-là. Vous allez sur Spotify, c'est même pas ça que vous avez comme pochette. Tu sais, c'est vraiment une autre pochette qui est là. Parce que je sais pas, je pense ça ressemble à une bouteille de Jack Daniels. D'après moi, ils ont été poursuivis ou quelque chose en même. Puis c'est juste le logo là, que ben, tiens, je peux pas vraiment me tourner de bord, là, mais c'est une tête de mort tout ça, là, qui est remplacée la pochette pour toutes les éditions suivantes. Mais c'est ça à quelque part. Puis comme je vous dis, j'étais un gros fan fini. Tous les albums, je les écoutais à toutes les années, puis ils ont roulé là, des centaines de fois chacun. Jusqu'à un tel album, puis à quelque part, ben, t'sais, j'ai comme. Ils ont eu une petite pause là, un an ou deux, puis t'sais, j'ai vieilli. À quelque part, c'est tout simplement ça, et que j'ai commencé à les moins les écouter. Puis les deux, trois derniers albums, je les ai écoutés peut-être une fois ou deux chacun. Là. Fait que, t'sais, c'est peut-être l'écœurette, c'est l'évolution, des affaires de même, mais c'est un marché qui est dur à cibler. Fait que. Tu sais, je veux dire, on évolue. Puis, tu sais, vous pouvez sûrement regarder là, vos choses que vous écoutiez là, quand vous étiez il y a peut-être 5 ans, l'année passée, cet été, puis que vous écoutez plus du tout. Puis, tu sais, mettons que ça vous intéresse même plus. Tu sais, je veux dire, c'est ça la nature de la chose. Mais pour quelqu'un qui a construit cette musique-là, d'essayer d'avoir ben, les fans, c'est sûr que tu sais, eux autres, ils ont beaucoup de fans, puis il faut qu'ils prennent beaucoup de choses en compte. Puis, quelque part, ben, ils doivent essayer. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. La mentalité, c'est on va essayer de garder tout ce qu'on peut garder de notre groupe, puis on va continuer dans cette lignée-là pour qu'on ait le plus côté fidèle. Mais c'est sûr, quelque part, là, l'inévitable là, arrive toujours à tout le monde là, éventuellement. Que je veux dire, le monde passe à autre chose, là, tout simplement. C'est toujours une question là, de temps, tout ça. Mais c'est ça. Fait que là, tu sais, je veux dire, ça devient tout ambigu un peu. Là, on voit quand même tout le temps des sauts dans le temps où est-ce que là, on est rendu à un autre concert éventuellement. Ou ce que finalement, ben. On a juste pour finir pareil avec l'enregistrement, là, ils vont jouer une chanson, là, juste pour le dire. Ils vont commencer à enregistrer une chanson, là, Reckless, qui est une chanson là, écrite par Kane Roberts, que je pense que c'était un guitariste là, de Alice Cooper, je pense, mais je ne suis pas trop certain. C'est peut-être Def Leppard ou quelque chose de même, là, tout simplement. Là. Cette chanson-là se trouve pas sur l'album, puis techniquement se trouve pas légalement là, à avoir, là, mais elle se trouve sur YouTube, là, quelque chose de même. Là. Fait que il y a toujours une manière là, d'écouter cette chanson-là, mais cette version-là existe par d'autres groupes, par Kane Roberts lui-même, je pense, mais C'est la seule chanson là, qui a été enregistrée par Steel Dragon, qui est comme officielle pour le film, qui ne se retrouve nulle part, là, tout simplement. Là, c'est quand même drôle qu'on n'a pas sorti cette chanson-là. Je dirais que cette chanson-là, le meilleur bout est le bout qu'on entend. Ça a l'air d'être vraiment solide, qu'est-ce qu'on entend, tout ça. Mais après ça, je veux dire, le refrain, là, je trouve ça horrible. C'est peut-être pour ça qu'on a décidé de ne pas la montrer dans aucun format. Là, peut-être, je sais pas. En tout cas, j'aime vraiment pas le refrain de cette chanson-là. Mais tout le début, tout ce qu'on entend dans le film, ça semble être la meilleure tune là, que Steel Dragon veut faire, là, tout simplement. Ce qui est ironique un peu là-dedans, c'est que Marky Mark, ben, t'sais, avec son style qui était plus rap, va essayer de faire du rap comme première version, puis on va lui dire, ben là, t'sais, ben, qu'est-ce que tu fais, là, ça n'a pas rapport à ce que tu fais. Mais c'est ça, t'sais, je veux dire, c'est un petit peu un clin d'œil là, à Marky Mark. Mais ça se peut des fois que je dise Marky Mark ou Mark Wahlberg ou Chris, là, en tout cas, j'essaie de des fois là, de juste tout un peu aligner mes idées. Là. Je suis désolé si des fois là, j'ai l'air d'être mêlant un peu là-dedans. Puis c'est ça. Fait que finalement, ben, on va se ramasser à un autre concert pour faire en parallèle avec le tout début du film. Avec pendant qu'on va chanter Stand Up, encore une fois. Et qu'il y a quelqu'un qui va se mettre à chanter peut-être encore meilleur que Chris chante. Faire vraiment le parallèle avec le début. Sauf que quand on regarde le début du film, ben Bobby Beers aime pas ça. T'sais, on voit que là, wow, t'es un peu un amateur ici et qui chante mieux que moi, là, ça marche pas. Tandis que Chris, où ce que tout d'un coup, il est rendu dans son cheminement, lui arrive et il dit, ben garde, moi j'ai quelqu'un, j'ai une opportunité en face de moi. J'ai quelqu'un qui pourrait me remplacer tout ça. Le remplaçant en question, c'est le Miles Kennedy, dans le fond, qui avait son groupe à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, je le connais plus là, comme le groupe que Slash a ramassé, dans le fond, là, le guitariste là, de Guns N' Roses, qu'il a fait plusieurs albums avec lui là, avant de reprendre avec Guns N' Roses là, il y a quelques années. Là. Mais c'est lui, dans le fond, qui va se mettre à chanter là, à la place là, de Chris Cole. T'sais, ça se fait sur le stage de même. Là, je veux dire, il l'embarque, il dit « Tu connais-tu les chansons, tout ça, t'es capable, tout ça? Bon, c'est beau, parfait, moi, je pars. Puis c'est ça, quelque part, ça finit pas mal de même là, pour Steel Dragon. Dans le fond, ben, t'sais, on avait vu un peu plus tôt, là, t'sais, le personnage là, de Matt, qui est joué là, par Timothy Spall, je n'ai pas beaucoup parlé. On voit que c'est un peu la conscience réelle de tout en arrière. T'sais, comme, c'est quelqu'un qui a comme qui a un âge mûr un peu. T'sais, il comprend dans l'univers qu'il est, mais que t'sais, il est très intelligent. Il voit tout ça aller. Puis, t'sais, en tout cas, je veux dire, je pense que c'est un peu le cœur du film. Que lui, il comprend comment ça peut changer quelqu'un, ça peut détruire quelqu'un, ça peut, tu sais, dans le fond, là, tu pars dans un autre monde carrément, dans cet univers-là. Il va dire, dans le fond, un peu plus tôt, là, il va avoir une conversation avec Chris, que lui, dans le fond, il avait comme sa vie, tu sais, il était tombé en amour un peu plus tôt, avec, tu sais, une fille, tu sais, tout était bien à quelque part, mais qu'à quelque part, il était rendu, peut-être, il voyait comme sa vie juste comme alignée dans des tracks, puis que, tu sais, c'est pas ça qu'il voulait vivre, dans le fond. Fait que, puis tu sais, juste, il est arrivé, puis il a dit, bon, ben, tu sais, éventuellement, il devait aller à la salle de bain, puis il a comme quitté tout carrément, là, il est jamais retourné en arrière. Puis c'est ce que Chris va faire, dans le fond, là, tu sais, dans le fond, ça va être sa manière un peu de dire, il va dire, bon, tu sais, je vais aller à la salle de bain, puis, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, il revient pas, c'était un peu sa manière, là, de juste dire qu'est-ce qui se passait, dans le fond. Puis, il va quitter là, puis, tu sais, le film, là, dans le fond, en 5 minutes, là, va fermer, là, rendu là. On va voir qu'il va avoir une évolution, parce qu'en bout de ligne, là, il va aller rejoindre, là, le personnage joué par Tim Oliphant au début. Dans le fond, là, ils vont faire un nouveau groupe, puis ils vont jouer, là, de l'acoustique, là, dans le fond, là, c'est The Verve Pipe, là, qui va jouer, là. Une chanson Colorful, le Verve Pipe, que je connais pas plus avant ou après, là, à part la tune principale. Ben, tu sais, il y avait un groupe qui s'appelait The Verve dans le fin des années 90, puis je pensais que c'était ce groupe-là, là, mais c'est pas ce groupe-là, dans le fond. Puis que c'est ça, dans le fond, on voit qu'il a comme un peu changé de style, il a coupé ses cheveux un peu. Mais c'est ça, ils se sont. Ils ont fait un nouveau groupe, tout ça. Dans le fond, il a évolué. Puis éventuellement, Emily, là, jouée par Jennifer, elle va venir les rejoindre, tout ça. Puis ils vont se réconcilier, là, comme si peut-être de rien n'était. Puis ça ferme là. C'est peut-être un peu brusque comme fin. C'est comme on dirait qu'on savait pas comment terminer. Oui, on a eu le cheminement, là, mais c'est ça. C'est correct comme fin. Quelque part, c'est ça qu'on s'attend à ce qui arrive avec le film, mais on vient de fermer en 5 minutes. Fait que, tu sais, en même temps, on a dans le générique de fin, là, on voit un peu là, des affaires qui continuent. Des prises alternatives ou des juste des affaires qui ont comme pas eu un rapport à coller dans le film. On voit Mark Wahlberg, dans le fond, il y a une journée où il allait mal ou quelque chose en même, là, puis on a décidé, c'est probablement pendant le concert parce qu'on voit qu'il y a du monde alentour, puis qui ont décidé là, de mettre la chanson là, de Good Vibrations. Peut-être parce que lui, c'est ça, il est plus un côté rap et que. Dans le fond, le côté métal, puis peut-être on lui a donné un petit os à quelque part, juste pour au moins qu'il a remonté un peu le moral pour continuer le concert. Là. D'après moi, ils n'ont pas voulu le dire, mais d'après moi, c'est ça à quelque part. Puis, c'est ça. Puis, il y a le côté, il y a comme une interview là, pour Bobby Beers, que lui, dans le fond, il serait lancé dans dans la danse de claquettes, quelque chose en même là. Par la suite, en disant que c'est à cause de. Tu sais, que le monde sont là pour voir lui et non Steel Dragon. Fait que, tu sais, dans le fond, peu importe ce qui part dans les choses qui l'intéressent, le monde va suivre. Encore là, je vois un parallèle beaucoup avec Judas Priest, le chanteur là, initial, Rob Halford. Une fois avoir quitté Judas Priest, est parti là, dans un genre de style. Tu sais, c'est un petit peu techno expérimental, c'est électronique, différent complètement là, de Judas Priest. Puis je pense que c'était vraiment là, visé à ça, dans le fond, là, juste pour faire un parallèle. Puis je suis pas mal sûr là, que, tu sais, dans le fond, c'est ce groupe-là, là, ça s'appelait Too, je pense. Puis, c'est ça, ça n'a pas vraiment marché tout à fait, là. Mais tu sais, je pense que c'est clairement un clin d'œil à cette affaire-là. Là. Alors, en conclusion, c'est un film, je suis content de l'avoir revisité. Je dirais, par contre, c'est... Je pense qu'il y a des problèmes apparents au film. Je dirais que les deux premiers actes, là, c'est vraiment c'est un film là, qui est le fun d'embarquer dedans. C'est comme tout le ton, tout ça. Puis quand les problèmes commencent à arriver, là, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est comme là, le ton du film joue contre le film. Où ce que je pense qu'on aurait pu ajouter un 10-15 minutes, peut-être assombrir un peu le film, puis... Tu sais, peut-être pour vraiment avoir une bonne résolution pour le personnage de Chris Cole, peut-être que le film aurait dû finir sur un ton, tu sais, pas certain à quelque part, tu sais, que je veux dire, là, ça finit trop rose. Je comprends à quelque part, on peut arriver, puis, tu sais, dans notre vie, où qu'il y a des choses où, tu sais, on a des espérances pour telle affaire, puis tout ça, puis que finalement, ben, tu sais, on se rend compte, on devient plus mûr. Mais qu'on va de l'avant quand même. Mais je pense, tu sais, la manière qu'on apporte le film, je pense qu'il aurait dû avoir peut-être un peu là, des répercussions. Je dis pas qu'on aurait dû virer vraiment super sombre. Tu sais, que ça aurait dû être vraiment, là, tu sais, avoir de la mortalité alentour, des affaires de même. Mais, tu sais, il y a des affaires que, tu sais, on voit plus la famille, on voit plus, tu sais, je veux dire, on voit la famille au début, mais là, tu sais, ils disparaissent carrément au milieu du film. Tant qu'à les avoir embarqués, peut-être qu'on aurait dû les mettre plus tard, peut-être qu'on aurait dû montrer que, je veux dire, il se foutait carrément là, de sa mère, tout ça, ou, tu sais, je veux dire, qu'il y en a un qui décède, puis que, que, tu sais, je veux dire, en bout de ligne, pour X raison, il peut pas être là. Tu sais, un peu, toutes des affaires un peu pour... Puis, dans le commentaire audio, il arrive, puis il dit, tu sais, il voulait pas arriver à un moment où ce qu'on doit détester Chris Cole. Je pense qu'on aurait dû arriver, justement, puis à quelque part, le dire, là, ben, tu sais, ça n'a pas de maudit bon sens. Le seul moment qu'on peut arriver puis dire qu'il a débarqué un peu, c'est parce que il y a Jennifer Aniston qui vient le voir, puis on voit qu'il est gelé, puis que, tu sais, dans le fond, il a comme perdu la notion du temps. Mais c'est on devait le ressentir, puis on le ressent juste dans une scène, puis tu sais, on le ressent pas vraiment à cause de ça. Puis c'est ça un peu le problème là, de la dernière partie du film, là, le dernier acte. Puis on sait pas comment finir le film, je pense. T'sais, son cheminement n'est pas tout à fait bien démontré là, dans la dernière acte. Ce qui est comme primordial, c'est ce qu'on voulait montrer depuis le début. Puis ça perd ses jambes là, vers la fin du film. Par contre, je dis pas que j'aime pas le ton du film. T'sais, c'est un film qui se prend légèrement. T'sais, c'est pas un film qui veut être trop profond. Mais il aurait pu changer juste quelques petits éléments, puis surtout le troisième acte, puis ça aurait pu être un film vraiment excellent. Mais là, tu sais, ça tombe à être... c'est un verre, mais, tu sais, je veux dire, c'est vraiment la limite. Tu sais, il manque juste un petit dernier punch qui aurait pu être vraiment là, quelque chose là, de phénoménal, je pense bien. Mais c'est ça. C'est toute la musique, tout ça, je veux dire, que, comme j'ai dit, c'est une trame sonore qui a marché beaucoup, là, puis que j'ai écouté là, des centaines de fois, là, honnêtement. Puis une fois de temps en temps, les chansons jouent là, dans mes playlists, puis je veux dire, je suis toujours content d'entendre ces chansons-là. Mais c'est ça. C'est les deux premiers actes du film qui font le film. Puis ça perd là, un peu là, sa vapeur là. Une fois qu'on se rend compte là, c'est comme il savait pas quoi faire tout à fait, t'sais, il a eu sa montée pour enlever mais pour comme en redescendre vers la fin, il manquait quelque chose quelque part là, dans le montage, puis peut-être là, juste un peu peut-être marteler le côté que ça va mal, puis c'est pas juste du fun, parce que c'est ça qu'on montre, t'sais, on le voit avec sa Batmobile, puis tout ça, il y a du fun, puis il y a des choses irréelles, mais il voulait montrer que ça allait mal aussi, là, que, je veux dire, il est en train de vraiment perdre son âme là-dedans, là, c'était important, parce que depuis le début du film, il veut avoir du fun aussi, fait que c'est comme c'est un peu une évolution, tout ça, mais il voulait montrer qu'il n'y avait plus de fun, puis c'était rendu vraiment le travail, puis c'est... puis c'est ça, c'est ce qui fait un peu là, que le film là, il est vert, mais vraiment limite. Là. Pour quand même finir avec le parallèle là, de Judas Priest, dans le fond, quelques années après, on avait le chanteur initial, là, Rob Halford, qui s'est retourné là, dans le metal. Dans le fond, là, il a fait son groupe Halford. Album très excellent, dans le fond, là, Resurrection, qui est un album que j'ai écouté, là, je peux pas dire combien de fois, là, des centaines et des centaines de fois à l'époque. Puis, je veux dire, éventuellement, c'était un peu comme, pas son excuse un peu, là, mais c'est un même dans les paroles de cet album-là, ça dit quasiment là, que... Il s'excuse quasiment là, d'avoir quitté là, la scène du métal. Puis, dans le fond, c'était peut-être le côté qui montrait là, que ça me tente de revenir un petit peu dans Judas Priest. Et que finalement, ben, quelque chose en 2004-2005, là, il allait revenir avec Judas Priest et qu'on allait mettre dehors Ripper Owens. Que lui, dans le fond, a continué dans un autre groupe là, qui s'appelle Iced Earth, un autre groupe que j'écoutais beaucoup à l'époque. C'était vraiment ironique, par contre, parce que j'étais pas nécessairement grand fan de Judas Priest à l'époque du film d'aujourd'hui, mais j'étais un grand écouteur là, du groupe Iced Earth dans ce temps-là, puis je connaissais très bien, puis là, tout d'un coup, ben, t'sais, il y a comme eu un mélange des deux groupes, puis je veux dire, j'étais à cette époque-là, en 2004-2005, j'étais fan des deux. Et que là, c'est comme les deux groupes se mélangent ensemble. Là, puis j'ai vraiment trippé à l'époque. Iced Earth a perdu beaucoup de renommée là, dans ces derniers temps. Là, c'est le groupe là, où c'est que le guitariste, là, dans le fond, le guitariste fondateur, tout, là, qui fait tout dans ce groupe-là, là, a été mêlé là, dans les choses là, de janvier là, aux États-Unis là, l'année passée, je pense, là, les manifestations qu'il y avait eues, là, en tout cas. Mais ça, c'est une autre mouture, parce que lui aussi, on l'a remis dehors à cause qu'un autre chanteur est revenu, tout ça. C'est vraiment spécial, le côté là, de Ripper Owens, là, dans le fond, sa carrière, là, puis éventuellement, ben il a fait éventuellement un album là, solo, il y a quelques années après, là, c'est en 2000, ben, ça c'est 2009, là, mais il y a eu des albums solo par la suite, mais en tout cas, c'est quelqu'un là, qui fait toutes sortes de projets. Judas Priest on repartit avec leur chanteur là, Rob Halford, qui est revenu là, pour faire des albums retour, tout ça. On a eu ça là, pour plusieurs groupes là, qui, dans les débuts d'année 2000 où ils se sont tous remis là, sur la route, tout ça, là, faire tous des legacy tours, puis ça fait de même là, Iron Maiden, je parlais tantôt, c'est la même affaire, puis tout ça. C'est ça rendu là. Ben, tu sais, aujourd'hui, il y a des membres de Judas Priest qui ont quitté Judas Priest et que finalement, ben, tu sais, il est chanteur pour une autre version bizarre de Judas Priest. Dans le fond, la moitié du groupe, c'est des anciens chanteurs, membres de Judas Priest et des nouveaux membres. Puis Judas Priest, ben, c'est la même affaire. Ils sont comme des anciens membres et des nouveaux membres, tout ça. C'est vraiment étrange un peu cette situation-là. Mais tu sais, en tout cas, ça c'est dans le côté réel que si on aurait un Rockstar 2, ben, peut-être qu'on continuerait sur l'histoire juste pour le fun dans un monde alternatif. Sauf que le film a été fait là, sur un budget là, d'environ là, c'est genre entre 38 et 57 millions. Là, fait que sauf que il a récolté quelque chose comme 19 millions là, dans le fond. Là, fait que c'était un flop. Pas un flop mérité, par contre, mais je pense que si le film aurait été peut-être un peu plus, là, il aurait su un peu plus qu'est-ce qu'il voulait être, peut-être qu'il aurait été plus de succès. Ça n'enlève pas qu'il y a du bon travail, il y a vraiment du bon monde qui travaille en arrière, on a tout le côté là, musical en arrière, toutes les idées, c'est vraiment solide. C'est juste que c'est je pense que je vais devoir mettre ça au pied du réalisateur, que c'était pas le bon réalisateur pour faire le film. Je pense qu'on avait besoin de quelqu'un qui était capable de jouer avec le côté ironique, mais que à quelque part il pouvait aller plus sombre, puis qu'il devait pas se dire nécessairement il faut que ça finisse trop bien rose à la fin. Il fallait quelqu'un que je pense qui soit capable de nous apporter l'idée, puis qui ait une plus grande vision, puis qui connaisse l'univers qu'il apporte, pour apporter ça à l'écran. On a un film qui s'appelle Rockstar, puis qui devait démontrer le bon côté et le mauvais côté. Là, ça a l'air plus d'un genre de montagne russe que, dans le fond, là, ça doit être cool là, quelque part, puis on peut juste débarquer quand ça nous fait plus notre affaire. C'est plus ça qui arrive à la fin du film, puis c'est ça que je pense qui démontre que le film, là, il avait pas de jambes, dans le fond, là, pour être un film à succès. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va commencer là, la rétrospective des Hannibal. Dans le fond, ça va être un doublon. Là, je vais couvrir deux films là, dans le podcast. J'ai déjà écouté là, le film audio, le livre audio là, écrit par Thomas Harris. C'est une version abrégée là, du livre. Là. Fait que je suppose que ça a donné vraiment là, le bon effet. Là. En tout cas, je vais en parler la semaine prochaine. Là, on va parler là, de Manhunter. Et du film là, de Dragon Rouge, qui est le troisième film, là, techniquement, j'aurais fait dans la rétrospective, sauf que c'est comme la même histoire, dans le fond. Là, le film Manhunter est sorti là, au milieu des années 80, et puis c'est ça, dans le fond. Puis l'autre est sorti là, quelque chose comme 15 ans plus tard, qui est la même histoire. Fait que on va parler de ça, on va les comparer les deux. Je vais vous donner mes idées finales. C'est ça, dans le fond, va succéder avec le film de le Silence des Agneaux. J'espérais pas trop dire Le Seigneur des Anneaux au travers de ça. Là, je suis toujours dans la misère avec ça. Je pense que j'ai fait la même affaire là, pendant que je couvrais tous les Seigneurs des Anneaux il y a une couple d'années. Puis après ça, Hannibal. Et bien sûr, on va terminer ça avec Hannibal Rising, avec Star qui va revenir d'aujourd'hui, Dominic West. Fait que c'est pas mal ça pour les prochaines semaines. Sinon, ben, Rendez-vous sur Facebook en voyant la couverture de la page. Vous allez voir, dans le fond, tout l'horaire jusqu'au mois de décembre. Roger Rabbit, dans le fond, où que je vais avoir un invité qu'on va parler là, de la version livre et la version que vous avez à l'écran, qui est carrément quelque chose de différent. Là, du coup, je vais juste en parler quelques minutes. Je vais commencer officiellement la franchise là, du MCU avec le premier film Iron Man. C'est juste vraiment pour commencer, pour finalement éventuellement arriver, parce que je peux pas arriver puis prendre une année carrément là, pour parler là, du MCU. Puis tu sais, dans le fond, les épisodes, ça va arriver quand ça va arriver. Là, ça va être des fois, ça va être plusieurs mois au travers, mais on va avancer tranquillement au travers du MCU. Même chose pour la série, là, les franchises de Star Trek, que je veux en faire quand même un genre de méga rétrospective. Pas juste couvrir les 13 films, je veux quand même y aller apporter plusieurs affaires. Si vous n'êtes pas fan de Star Trek, vous n'avez pas vu les films, tout ça, je veux quand même apporter toutes des choses quand même pour vous faire découvrir cet univers-là. C'est vraiment, ça va être vraiment encore des épisodes là, qui vont être très étendus, mais pour quand même vous guider au travers de cet univers-là, puis pas juste apporter les films, parce que cet univers-là n'est pas juste les films. C'est dans le fond, les films, c'est un peu comme... je veux dire, dans le fond, cette série-là a été faite à partir d'émissions de télé et non à partir de films. Les films, c'était juste comme des grandes bandes-annonces pour, dans le fond, apporter les gens au petit écran, dans le fond, si on peut garder ça de même. Fait que, tu sais, c'était comme le sommet de l'iceberg, mais il y a beaucoup plus en dessous. Fait que je vais essayer de faire une rétrospective élargie. Quelques épisodes clés, dans le fond, ce que je n'ai parlé là, dans les dernières semaines, là, un peu qu'est-ce que je veux faire. Fait que, tu sais, ça va être quelque chose que je veux faire sur... ça va probablement être une rétrospective là, de 3-4 ans, dans le fond, là, où ce que je vais apporter là, un épisode une fois de temps en temps. Pareil pour le MCU, dans le fond, les deux vont être en parallèle. Mais c'est ça, dans le fond, là. Fait que ça va être pour les prochaines semaines. Puis, dans le fond, là, pour le temps des fêtes, dans le fond, on va parler là, de Gremlins, film qui se déroule dans le temps des fêtes. Fait que, tu sais, pourquoi pas apporter là, les petites créatures vertes au travers de ça. Le petit Mowgli au travers de tout ça, puis s'amuser là-dedans, changer un peu du ton. Fait que c'est ça qu'on va parler là, dans les prochains mois, mais suivez là, la page Facebook, la page Twitter ou la page Instagram du podcast là, pour avoir plus de détails de qu'est-ce qui s'en vient. Sinon, ben commentez sur l'épisode d'aujourd'hui, dans le fond, dites vos pensées. Est-ce que Rockstar, on devrait avoir un 2? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai pas compris? On aurait dû. Est-ce qu'on a. Il y a plusieurs films qui s'appellent Rockstar. Il y a un autre film là, en 2011, je pense. Ou peut-être que ce film-là est meilleur. J'ai aucune idée, je ne l'ai pas vu. Mais n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Mais sinon, d'ici le prochain podcast, je vais aller prendre une pisse.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Get off my plane. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Remember Sally when I promised to be last? I lied. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcasts, Spotify, Podbean, Google Podcasts, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And you will know my name is the Lord when I lay my fingers upon you. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. You can't handle the truth. En espérant vous voir au prochain épisode. My mom always said, life was like a box of chocolates.